13h36, malheureusement, on a comme une succession d'annulations d'événements. C'était à prévoir quand même, autant dans le monde du sport que dans les spectacles et les différentes industries. On va y revenir. Mais juste avant, avec les événements des dernières 24 heures, l'annonce du départ de la direction de la santé publique du docteur Horacio Arruda, qui, faut quand même le préciser, demeure sous-ministre à la santé, ça a été précisé, et c'est l'ex-directeur général de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, Dr. Luc Boileau, qui prend l'intérim à la direction de la santé publique, ce qui suggère, entre autres, qu'il pourrait y avoir donc une nomination à venir. Mais on le sait, des fois, l'intérim, ça peut durer assez longtemps. Mais question de perception, question également d'image, de message, parce qu'on sentait, on entendait, on lisait des critiques, et les critiques étaient formulées autant à l'endroit du gouvernement que du directeur de la santé publique. Puis autant, s'il y avait différents clans à dire non, finalement, tu sais, on peut reprocher bien des choses au docteur Arruda, il a fait ses bons coups, il en a fait des moins bons. Le gouvernement, c'est un peu la même chose, mais d'un œil, je dirais, critique universitaire. Comment on perçoit tout ça? Le professeur à la Faculté des lettres et sciences humaines, communication et marketing, qui est spécialiste d'ailleurs en termes de communication et relations publiques, de communication publique, le professeur Marc D. David est avec nous. Bonjour, professeur.
Bonjour.
24 heures assez intenses?
Ah, oui, hein? Gros changement à la tête de la santé publique au gouvernement du Québec. Effectivement, ça a des grosses conséquences au niveau médiatique, mais ça a aussi des conséquences au niveau de la suite des événements, parce qu'on est quand même au milieu d'une grande cinquième vague qui est dure en ce moment pour tout le monde. Mmh. Alors, effectivement, ces changements-là ont un impact.
Bon, certains diront qu'il n'y a jamais de bon moment pour effectuer ce genre d'annonce, de ce genre de changement ou d'annoncer un départ, surtout, vous l'avez mentionné, dans l'une des vagues même les plus importantes en termes de cas d'hospitalisation également. Comment ça peut être perçu? Parce que on avait entendu des critiques autant à l'endroit du docteur Arruda que du gouvernement, mais en même temps, est-ce que ça va amener pour d'autres personnes peut-être un peu d'inquiétude, qui étaient rassurées par le docteur Arruda, alors que d'autres vont dire, ben, on va peut-être passer à d'autres choses.
Oui, effectivement, c'est un excellent point que vous soulevez, parce que docteur Arruda était quand même très, très apprécié. Par contre, faut comprendre que, et je tiens quand même à le féliciter en nombre, parce que apprendre sur le tas d'une gestion de crise comme la plus grosse gestion de crise sanitaire que le Québec ait connue, il y a personne qui a appris ça à l'université, à l'école. Il a dû apprendre ça sur le tas comme tout le monde d'ailleurs. Mm-hmm. Par contre, il devait apprendre des décisions et il a réussi à passer des messages, à faire en sorte que les gens soient conscientisés tout au long de la pandémie. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça a duré si longtemps, parce que une gestion de crise, habituellement, comment on l'enseigne, ça dure 24 heures à 3 mois maximum. Là, on est rendu à 2 ans. Il y a, par contre, l'usure. Les gens, à un moment donné, au niveau de l'usure, on l'entend partout. On est tanné de ci, on est tanné de ça. C'est clair que ça a des gros, gros impacts. La confiance envers M. Arruda, malheureusement, s'est estompée. Puis c'était un phénomène normal, soit dit en passant, là. Ça aurait été le cas pour n'importe qui, pas juste pour lui, soit dit en passant. On l'a vu avec la ministre McCann qui a été remplacée par M. Dubé. À un moment donné, c'est parce qu'on a beau répéter les mêmes choses, c'est toujours les mêmes messages qui sont passés. Gardez vos distances sociales, le masque, ainsi de suite. Les gens. Et à un moment donné, on a besoin d'autres personnes pour passer différents messages de façon le plus souvent différente. Alors, M. Arruda, mais là, malheureusement, pour lui, mais on passe à une autre étape là, au niveau de la santé publique.
Sentez-vous aussi que, parce qu'on a pris soin de le dire, que le docteur Arruda va conserver son titre de sous-ministre, donc le caractère politique du poste qu'il occupait, et qu'on vient séparer le titre de directeur national de la santé publique, avez-vous l'impression que ça, dans l'opinion publique, ça peut jouer en faveur et peut-être redonner une cote au gouvernement Legault?
Ben, je pense que c'est un plus de dissocier les deux aspects d'un point de vue de la perception de l'ensemble des acteurs scientifiques, d'une part, mais aussi de la population. Le fait d'avoir, pendant 22 mois, d'avoir porté deux chapeaux, M. Arruda, bien évidemment, on se demandait de quelle façon les notions, les décisions politiques ont un impact sur ces décisions et inversement. Le fait de dissocier, je pense que ça va peut-être assurer une partie de la population d'avoir deux personnes, d'avoir M. Arruda qui va rester quand même là parce qu'il a acquis une expérience extraordinaire, il faut pas l'oublier, mais d'avoir quelqu'un de nouveau, peut-être plus indépendant, je pense que ça va être un plus parce que on a eu l'impression dans les derniers mois, puis je le mentionnais un peu au début de l'entrevue, on est en gestion de crise, on apprend, mais on se demande encore pourquoi ben il y a un couvre-feu. Là, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise idée, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce qu'on dit, c'est on l'a mal expliqué. Comment se fait qu'on est encore là? Pourquoi les tests PCR ont été sont en retard? Bon, on savait que ça allait venir, les vagues successives. Donc, il y a des décisions qui ont été prises qui ont été mal expliquées. Puis je pense que le fait de se faire challenger par d'autres scientifiques, d'autres médecins, d'autres sources d'informations vont pouvoir peut-être ramener un niveau de confiance plus élevé, à tout le moins.
Oui, parce que, et là, ça arrive aussi dans une année électorale. Et on sait, parce qu'on l'a vu l'année passée, puis même depuis le début de la crise, la popularité du gouvernement de François Legault auprès des Québécois, des Québécoises, qui était quand même à des sommets, et là, qui s'effrite un peu. Le gouvernement a besoin aussi également de se ramener en termes de confiance auprès des citoyens.
Je pense que c'est primordial, surtout qu'effectivement, on est dans une année... là, on est en période préélectorale, on va être en élection dans quelques mois. Le niveau de confiance s'effrite et normalement, ça aurait pu être fait beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, il y a quand même... le gouvernement a maintenu un niveau de confiance très élevé quand même dans des circonstances exceptionnelles. Par contre, les Québécois se rendent bien compte qu'à travers d'autres provinces, il y a des situations où il n'y a pas de couvre-feu. On est quand même la seule place en Amérique du Nord en avoir un. Oui. Et on l'explique mal. On s'explique mal comment ça fait qu'on a tant de cas, pourquoi on retourne à l'école si rapidement. Bon, il y a un paquet de choses. Puis là, je ne suis pas en train de critiquer ces mesures-là. Je suis en train de dire les perceptions que les citoyens ont, en fait, d'une incompréhension. Et c'est là que le gouvernement va devoir être beaucoup plus clair et mieux expliquer pour remonter sa cote de popularité, je dirais.
Et vous rejoignez le propos tenu la semaine dernière dans cette émission par la docteure Mélissa Généreux, votre collègue de l'Université de Sherbrooke, qui mentionnait ça. Les gens sont... ils veulent comprendre, ils veulent se faire expliquer le pourquoi de... Et c'est là que, présentement... on a un peu beaucoup de difficultés.
Absolument. Et ça, on l'a vu, là, c'est vraiment dans mon domaine d'expertise en communication stratégique. On s'est rendu compte avec le temps, il n'y a pas beaucoup de conseillers en communication à la santé publique au gouvernement du Québec. D'ailleurs, et passer le message, avoir la science, c'est une chose, mais la communiquer, la vulgariser, faire en sorte que le citoyen puisse comprendre, parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est très, très compliqué.
Pas simple,
on est dans une situation exceptionnelle. Ouais. Par contre, il y a des choses qui s'expliquent. Pourquoi on prend telle décision plus qu'une autre? Pourquoi on attend? Et pas juste de faire des injonctions, c'est-à-dire faites ci, faites pas ça, mais pourquoi? Et ça, pour moi, ça a été une lacune dans les derniers mois. En fait, depuis le début de la pandémie, c'est clair, mais à un moment donné, il faut apprendre de ses erreurs. Et ça, malheureusement, ça a été moins bien communiqué, je dirais.
Et c'est ce qu'on a travaillé pour les prochains jours, les prochaines semaines, parce que vous le dites, la cinquième vague frappe fort, là.
Ah oui, absolument, ça frappe fort. Puis on ne sait pas, tant que la population mondiale sera pas suffisamment vaccinée, mais comme les spécialistes l'évoquent, il peut y avoir une sixième, septième vague parce qu'on n'est pas immunisé face à ça. Mais là, comment se fait-il qu'encore, il y a quand même presque 1,4 million de Québécois qui ne sont pas encore vaccinés. Il y a un problème ici. Si on veut vraiment avoir un succès face à cette crise-là, il y a des efforts qui vont être davantage faits par les populations, mais le gouvernement ne va pas devoir être pas mal plus efficace dans ses communications. C'est clair.
Professeur David, merci.
Ben, je vous en prie.
Merci beaucoup. Le professeur Marc D. David, Il est de la Faculté des lettres et sciences humaines, communication et marketing. D'ailleurs, c'est le responsable du baccalauréat et de la maîtrise en communication marketing. Hein, l'image publique, les communications publiques, c'est pas mal son dada.